Bienvenue à la 15e édition de Litteramour en compagnie de Sigrid Brinkmann. La librairie Zadig est un endroit bien singulier, situé au centre de Berlin. Nulle part ailleurs, on ne trouve à Berlin un plus grand choix de littérature francophone contemporaine. Patrick Suell a fondé la librairie et qui cherche un livre ou demande un avis peut être sûr d'obtenir des suggestions de lecture bien loin des sentiers battus. Il y a quelques années, Zadig a déménagé de la Linienstraße à la Gipsstraße numéro 12. Si on veut, on peut sortir de la librairie par une porte qui donne sur un bout de jardin et un large couloir traversant des cours qui mènent à la Sophienstraße. De là, on accède rapidement aux Hackische Höfe avec leurs bars et magasins, un cinéma et un variété.
Allô.
Bonjour.
Ça va?
Oui, ça va très bien.
On se serre la main encore ou on fait comment?
On se serre la main, je crois. Patrick Suell et une collaboratrice discutent une commande. Je tourne autour de la table avec des nouveautés.
T'as la forme, toi? Ah oui, il est à nouveau dispo? Oui, oui, il est très demandé, oui. Oui.
Mais ça a remarché quand?
Alors, quel titre est le plus demandé en ce moment?
Hervé Le Tellier, en premier lieu, phénomène historique, c'est-à-dire qu'on a un Goncourt qui revient face à l'autre Goncourt de Mohamed Mbougarsar, La plus secrète mémoire des hommes, titre tiré de Bolaño, c'est la haute littérature pour moi, mais Le Tellier, c'est la haute littérature ludique, facétieuse, comme je l'aime aussi, puisque c'est l'Oulipo, et c'est un signe de cette pandémie aussi. Voilà, les deux demandes, c'est ça. Après, les femmes, nombreuses, et nous, on a... Enfin, moi, j'ai une attention sur l'émergence de nouvelles autrices, comme Clara Dupont-Mono, S'adapter, qui est un titre que je défends beaucoup.
Oui, je ne l'ai jamais entendu. Enfin, elle a reçu le prix féminin, le prix Goncourt des lycéens.
Donc c'est...
Qui est qui est important, n'est-ce pas?
Oui, bien sûr. Mm-hmm. Prix des Goncourt des lycéens, c'est le petit Goncourt, mais lu par des gens très jeunes, donc c'est peut-être l'avenir. Mm-hmm. Clara Dupont-Mono, très importante, et d'autres femmes aussi qui écrivent. Pourquoi se passer d'Amélie Nothomb? Moi, j'ai toujours défendu Amélie Nothomb. Mais bon, là, c'est peut-être... très ou trop connue, mais on a eu des révélations comme, pour parler encore d'une autre autrice femme, Constance Debré, avec Non, qu'on vend beaucoup, qui a les faveurs d'une jeunesse, en fait. Et moi, je suis assez pour. Sinon, un autre homme, cette fois-ci, Nicolas Mathieu, Connemara, la suite de Leurs enfants après eux. Là, on est en saison basse, marée basse, parce qu'en fait, les livres des rentrées littéraires sont moins présents, on est au tournant, moi j'aime ce moment. Les libraires sont des cultivateurs, j'aime à dire, et on cultive des saisons littéraires, donc je joue sur les mots. Et là on est dans la saison fascinante parce qu'on attend l'été et qu'on est à la fin du train d'enfer, des propositions commerciales, des grandes maisons d'édition sur des prix, des choses comme ça. On est vraiment au creux de la vague avant le retour, on commence à voir d'ailleurs en e-book. Les livres de la rentrée littéraire, hein, c'est infernal, la rentrée littéraire de septembre, il y a déjà des choses. Là, l'actu, par contre, le scoop qu'on attend peut-être aujourd'hui, à date, c'est Céline, le livre Guerre, qui est un inédit retrouvé dans un carton à Paris, avec toute une histoire rocambolesque, une spéculation derrière, dont on reparlera, mais j'attends avec impatience ce livre. On attend une quantité de 10 aujourd'hui.
C'est bizarre qu'on trouve toujours encore des manuscrits. Céline qui est morte depuis si longtemps, sa veuve qui a longtemps survécu, Céline, et qui avait édité encore des fragments. Et maintenant, qu'est-ce que vous savez de cette découverte?
Moi, je ne suis pas un célinien à ce titre. Je suis attentif à cet immense auteur qu'est Céline. Alors, moi, en tant que libraire qui fonde Zadig, j'entends, je vais remettre des choses, des bornes un peu... la trilogie allemande de Céline, ses écrits d'après la débâcle des fascistes, groupe d'idées dont il a fait partie, c'est des écrits que j'aime beaucoup, je défends ça. Après, l'intellectuel français célinien, c'est une posture aussi. Ce que j'ai à dire à ce sujet, c'est que je crois qu'il y a une sorte de commenté malgré tout, parce que Ce carton, il est, semble-t-il, dérobé à Céline, donc dans l'après-guerre, suite à un cambriolage, mais ceux qui l'ont détenu, mais moi, je n'ai pas envie de rentrer dans le haut spéculatif, était savant, savait ce qu'il faisait, ça a été... Il y a cette espèce de côté patrimoine Céline qui, moi, m'intéresse peu. Par contre, on va voir ce que c'est. Je n'ai pas eu le livre en main. On ne m'a pas fait ce privilège. Je pense que ça vaut beaucoup parce que des écrits de Céline, effectivement, c'est important. Après, nous aurons le pessimisme et cette radicalité noire qu'il y a toujours. Et il faudra qu'on soupèse tout ça. Voilà, qu'on retrouve des cartons dans l'aura sulfureuse qu'avait Céline, ça peut être... assez logique, c'est inclus dans un certain esprit de la scène littéraire française. Et ça, on pourrait en reparler. Le prix Goncourt, par exemple, La plus secrète mémoire des hommes, m'intéresse beaucoup parce que ce Mohamed Bougarsar, c'est un auteur jeune, 32 ans, africain, qui émerge un peu à Paris parce qu'il le doit, parce que la maison mère linguistique, c'est Paris. Mais il est dégagé de beaucoup de choses et il inscrit une génération du XXe siècle d'hommes noirs, c'est des hommes, dans la scène parisienne et l'avant-garde parisienne d'une façon nouvelle. Moi, ce qui m'intéresse, dans les distances que j'ai, moi, à Berlin, j'ai cherché cette distance avec le territoire central. Pour la francophonie, je prends du recul et m'intéresse tous les faits d'avant-garde de la scène littéraire francophone. Donc j'ai de la distance avec un peu tout le monde et je suis curieux de tout. Voilà.
Très bien. On sort un peu au jardin.
Allez, on va au
d'accord.
Jardin. Tiens, là, on va mettre...
C'est particulier quand même qu'on peut sortir, arriver par là et sortir ici.
Je vais mettre le ciel.
Oui, c'est très beau. Ici, le Zadig, avec le Alexanderplatz
ah oui, ça,
derrière.
C'est un logo.
C'est, oui, c'est très
un logo qu'on a tenu à faire avec ambition, mais une ambition désintéressée, parce qu'on a, moi, on voulait pas monter une firme, Coca-Cola Company, mais on s'est dit qu'il était légitime, quand on a fait Zadig au début, les fondateurs de Zadig, on s'est dit qu'il fallait faire un logo. Et donc on a consulté un graphiste qui avait fait du design à Potsdam. On disait brainstorming, je ne sais pas si on le dit encore. On a fait une boîte à idées, un dialogue avec ce graphiste pour créer une identité qui convienne. Et donc on a pris cette... comme Berlin, c'est un Orient pour les francophones. On a pris cette tour de télé en minaret, comme un Orient. Peut-être sommes-nous un Orient de la francophonie, voilà.
Et moi, j'ai tout de suite pensé à Alexanderplatz.
Oui, bien sûr, c'est
tour,
pour
oui.
ça. Ouais.
Oui. C'est très bon.
C'est un hommage à l'Est, à l'Est européen. Moi, je suis très européen. Là, c'est très personnel. Voilà, peut-être qu'on est... oui, on a voulu qu'il y ait aussi la forme d'un hexagone. C'est sorti de tout ça. L'hexagone, c'est la forme de la France, dans le cliché. Tout le monde ne le voit pas, mais nous, on est attentifs à ça, oui.
Vous avez fondé la librairie il y a presque 19 ans.
Oui.
Qu'est-ce qu'il y a eu comme grand changement ou non, les dernières années?
Ce qui a changé, c'est les modes de consommation et de communication. Mais ça, c'est le lot de tous, donc je n'ai pas de complaintes avec ça ou de commentaires. Après, ce qui a changé en bien ou mal, donc premier point, il y a ça, et donc il y a Pure Player qui produisent des solutions pour commander en ligne. Ça, c'est nouveau. Avant, nous étions des showrooms agréés, et donc je voulais faire Zadig pour... remettre à jour, rénover le côté comptoir de livres pour expatriés à l'étranger. Ça ne m'intéressait pas trop. Je voulais qu'on soit un lieu d'avant-garde à l'échelle européenne, dans un optimisme européen, et qu'on produise le service d'une librairie de Paris ou province indépendante, frondeuse, radicale d'un point de vue progressiste. Voilà. Ce qui a changé, je ne sais pas. Que dire, c'est le mental de tous, des éditeurs, des libraires. Moi, je suis très favorable à serrer les rangs dans la période tragique où on vit, que tous les acteurs de la scène du livre soient ensemble. C'est le cas avec Berlin. J'ai des rapports assez amicaux avec les libraires et les éditeurs.
La dernière fois que je suis venue pour chercher un livre, j'ai entendu, il y avait un client qui a mentionné que vous avez reçu cette médaille chevalier.
Oui.
de l'ordre des arts et des lettres,
oui,
c'est ça ?
Oui, chevalier des arts et lettres.
Oui, c'est parmi les 5 libraires européens qui ont été honorés.
Oui, c'est peut-être... libraire ne rend jamais riche. Après, ça, c'est un capital symbolique, dit Bourdieu, ou dit la sociologie. Oui, moi, je l'ai bien pris, mais il y a d'autres libraires qui sont nommés. J'ai une consoeur de Londres qui va bientôt avoir cette médaille, très bientôt. Je vais à Londres, d'ailleurs, pour un événement où elle sera décorée aussi. Bon, moi, ça m'a beaucoup ému, touché. J'essaye de continuer le galop, on dit. On essaie d'être à la hauteur de ça. Après, on a vécu une période, c'est le tournant. Moi, je retrouve Litteramour. On a eu la période de pandémie qui a plombé l'ambiance. C'est-à-dire peut-être à ce titre que j'ai été honoré d'une médaille. On n'a eu aucune lecture pendant tout ce temps. On a eu cette déconvenue mondiale, mais on en a d'autres. On a une guerre européenne d'échelle mondiale, on va dire, là, qui est aux portes, à laquelle les Berlinois sont plus sensibles. Moi, j'ai donc fondé Zadig avec un point de vue indépendant, fondeur très européen, et on se retrouve dans le vent de l'histoire et on essaie de renouer avec tout. C'est le temps d'après, disaient les médias. Là, je suis ironique, comme Voltaire. Pour le temps d'après, il faudra qu'on ait de la joie et de l'innovation. Mais j'espère qu'on aura beaucoup plus l'occasion de prendre la parole, que ce soit les auteurs. Nous, les libraires, on a des petits mots à glisser, mais confronter le public aux auteurs et à nouveau créer des lieux, des instants, un temps et un espace pour que le public échange avec les livres, c'est l'urgence.
Un des rôles des libraires comme vous, c'est aussi de faire découvrir des auteurs qui viennent d'être connus. Et je me rappelle que, parce qu'on va écouter dans l'épisode du juin, Leila Slimani,
oui,
qu'elle avait été invitée par vous en,
oui,
2015, donc après son premier livre, Au Jardin de l'Ogre, qui a été publié en 2014, un an avant qu'elle a reçu le prix Goncourt. Vous l'avez déjà invitée, elle est venue.
J'ai souvent dit, non pas par modestie, mais ça me met exactement à ma place, c'est l'effet Zadig conjugué à l'effet Berlin. Mais c'est une époque qui est finie, qui se renouvellera sans doute, mais nous avons été dans une forme de movida dès les années 2000, puisque le lieu aura 20 ans dans quelques temps. Et donc, Leila Slimani, comme beaucoup d'autres actrices et acteurs de la scène littéraire, a franchi ma porte et a sollicité de se présenter à notre public berlinois. Et donc, j'ai immédiatement dit oui, on a fait connaissance. Ça m'a révélé, en fait, qui elle était, parce qu'il y a tellement de primo-romanciers, on appelle ça, c'est le terme. Les premiers romans de Gallimard, on l'avait sur nos tables, mais on était peu sensibilisés. Donc, sa démarche d'insister par le biais d'une amie qui était à Berlin, c'est très générationnel et c'est très local, j'allais dire. Et puis, ça a donné quelque chose, mais j'ai, à ce moment-là, fait une lecture. Pour être précis, hors les murs, ça c'était dans le cadre de mon action, à la coude, on a fait une lecture hors les murs, et c'est une lecture rencontre en présence d'Olivier Guez que nous avons faite. Olivier Guez qui après a eu pour la vie de Joseph Mengele les honneurs du Renaudot. Donc en fait, c'est l'époque d'un vivier productif qui peut-être, j'ai pas de pessimisme, mais peut-être c'est une page qu'on tourne, c'est-à-dire... C'est une génération d'auteurs, j'ai dit le mot génération, que j'ai bien connu. J'en ai connu d'autres, on peut en citer d'autres, mais ça va être trop court et je vais trop dire, je vais en oublier. Mais j'ai eu d'autres concours aussi, si on va les nommer, on va dire que Mathias Sénard ou Maïlys de Kerangal sont passés chez nous, souvent en collaboration, l'une avec les semaines littéraires du Schloss Gänsehagen ou... Mathias Sénard, je crois que c'est par la bande, c'est-à-dire qu'il était de passage à Berlin. Il était très demandeur, bien avant qu'il ait la notoriété qu'il a aujourd'hui. Mais je pense que c'est effet Zadig, effet Berlin, année 2000. C'est le marquage de l'action qu'on a eue. Et il faut toujours s'adapter au présent quand on est commerçant culturel, citoyen d'une ville. Donc c'est un autre temps. Là, j'attends les nouveaux auteurs et j'en convoque quelques-uns et on est en train d'essayer de cimenter une perspective, une vision et un programme de lecture sur la belle terrasse des Sophie Gibbs Höfe. J'ai le projet non abouti de refaire un ciment, j'appelle ça comme ça, créer une nouvelle donne positive.
Vous avez aussi créé cette anthologie et poésie lointain intérieur. Pourquoi ?
Parce qu'on a vocation, légitimité, quand on est libraire, de publier. Du temps de Diderot, un libraire, c'était un éditeur, c'est la même chose. En français, en bon français. Donc, moi, j'ai toujours fait un peu d'édition. Pour les 10 ans de la librairie, j'avais déjà édité une anthologie célébrant les 10 ans de Zadig. Donc, une chronologie de 2003 à 2013, avec des textes qu'on avait sélectionné de gens qui ont franchi notre porte. Donc voilà, c'est cohérent avec ce que je disais pour les invitations d'auteurs. Mais on avait glissé le marquis de Sade et Dublin aussi, qui symboliquement avait franchi notre porte. Là, on a fait ce premier jet qui a marché avec un financement français. Donc c'était un hors commerce. On l'a beaucoup distribué dans la ville, il m'en reste très peu. Cette anthologie Rue des Lignes 2013, c'était l'intitulé, a circulé et à l'instigation d'un client, ami, passant de la librairie français, donc Emmanuel Loyaux, que je cite au passage, donc client, poète et traducteur et amateur de poésie français, donc qui réside à Berlin de manière plus invisible que tous. En tout cas, on l'a peu vu en cours, son nom est inconnu, donc on sélectionne par conviction et j'espère avec esprit, on sélectionne des auteurs vivants de la francophonie dès 2018. Donc, Lointain intérieur est repris d'Henri Michaud. On a choisi ce nom qui exprimait à notre sens une sorte de sentiment du temps. Moi, j'ai tendance à dire plus fort que mon camarade que le lointain intérieur, c'est ce que nous cherchons quand nous voulons cesser d'utiliser nos smartphones. Il y a quelque chose d'une sérénité, une zen attitude qu'on pourrait chercher. Ça vient d'Henri Michaud. On a demandé l'usage donc à Gallimard du nom qui nous a été accordé par la NRF, donc les ayants droit d'Henri Michaud. Donc on a une sorte de labellisation et donc on va essayer, parce que c'est toujours compliqué, de faire une revue annuelle tous les mois de septembre. En tout cas, moi, je me dois de produire des fascicules aussi parce que on est libraire de livres en papier, pour parler de manière ironique, et on doit le laisser entendre encore. On est là pour inventer des formes nouvelles sous la forme de cette activité qui est un des plus vieux métiers d'Europe, sinon du monde. Depuis la crise pandémique, on a redécouvert qu'on a une fonction sociale, les libraires. Et moi, j'y tiens beaucoup, humaniste et social, dans notre credo à nous, du groupe que je forme avec les collègues de Berlin, quasiment tous, et ceux de tout le continent et plus large, voilà.
Dans son livre « Le parfum des fleurs la nuit », Leila Slimani nous emmène à Venise, à la Punta della Dogana. Elle y a passé une nuit en avril 2019. La Dogana était une maison de douane. Elle a été construite au XVIIe siècle entre le Canal Grande et le Canal de la Giudecca. Aujourd'hui, la Fondation Pinault y expose sa collection d'art contemporain. La perspective de dormir au milieu d'œuvres d'art, écrit Leila Slimani, l'a laissée totalement indifférente. Elle explique pourquoi elle se sent plutôt mal à l'aise parmi les tableaux et les sculptures.
Comme je l'explique dans le livre, je n'ai pas eu l'habitude des musées quand j'étais enfant. Je suis très peu allée dans des musées, il n'y en avait pas dans la ville où j'ai grandi. Et puis voilà, mes parents m'y ont emmenée petite, mais peut-être une ou deux fois dans des pays européens. Donc pour moi, le musée, c'était le monde occidental. Et puis c'était des codes que je ne comprenais pas. J'avais l'impression qu'il fallait être très silencieux, qu'il fallait être très obséquieux, c'était un peu comme dans une église, enfin c'était un lieu un peu sacré, où il fallait se mettre dans une position presque de soumission par rapport aux œuvres. Et j'ai mis beaucoup de temps à comprendre qu'on pouvait avoir une plus grande liberté et finalement se promener dans un musée un peu comme on veut, choisir son parcours, s'arrêter si on a envie, ne pas s'arrêter si on n'a pas envie, mais ça prend du temps.
Vous avez parlé de code tout à l'heure, mais pour appréhender l'art contemporain de manière plus subtile, pour pouvoir lire les images, il faut connaître les codes. Mais cela vaut aussi bien pour la littérature. Est-ce que le fait d'avoir commencé très tôt à lire des histoires fait toute la différence ?
Je sais pas, j'ai l'impression que quand même la littérature c'est différent. Un livre, on peut l'acheter, le mettre dans sa poche, le ranger dans son sac, le lire le soir tout seul, on peut le faire rentrer dans sa maison, dans son intimité. L'œuvre d'art c'est très différent, c'est quand même une œuvre qui reste dans un lieu autre, elle est accrochée quelque part, on ne peut pas la toucher. C'est un rapport beaucoup moins intime, beaucoup moins charnel. Bien sûr, la littérature demande un certain nombre de codes, mais c'est des codes quand même qui me semblent plus accessible à tous et à chacun. Et moi, évidemment, le fait d'avoir commencé à lire très très tôt, très jeune, et puis d'avoir eu des parents, des grands-parents qui m'ont incité à lire, ça m'a aidé à maîtriser ces codes, même si là aussi, il faut toujours faire preuve de liberté, exactement comme dans le rapport avec l'art.
Tout dans la Dogana, écrivez-vous, il faisait référence à votre père, lui qui a connu l'enfermement en prison après avoir été condamné lors d'un procès inique. Et il n'a pas pu s'en remettre, si j'ai bien compris. Est-ce que vous êtes devenue écrivaine pour transcender tout justement des états d'enfermement? Et cela peut être des contraintes que l'on s'impose à soi-même?
Mais en fait, c'est ce que j'explique dans le livre, c'est assez paradoxal. Je me suis à la fois devenue écrivain pour m'enfermer, parce que je l'ai compris dès que j'ai commencé à vraiment écrire. Écrire, c'est aussi s'enfermer, c'est aussi s'isoler, c'est aussi accepter de rester immobile pendant des heures dans un endroit précis. Et en même temps, effectivement, c'est un enfermement qui n'est jamais absolu, parce que, comme l'écrit très bien l'écrivain turc Ahmed Atlan, un écrivain n'est jamais enfermé, parce qu'il arrive toujours, par l'imagination, par la fiction, à traverser les barrières, à traverser les murs, à s'évader par les fenêtres, entre les barreaux. Donc c'est une sorte d'équilibre très étonnant entre l'enfermement qui est nécessaire à l'écriture et en même temps le fait de se déployer un peu partout grâce justement à l'écriture.
Le titre que vous avez choisi pour votre récit autobiographique suggère que d'autres sens que les yeux ont pu à Venise évoquer des images et des souvenirs intimes. Et je vous prie de lire un passage.
Au centre du musée se dressent de grands monolithes noirs éclairés de l'intérieur. À travers les vitres teintées de ces terrariums géants, on aperçoit les branches et les feuilles du galant de nuit, appelé aussi Mesk al-Arabi. Je marche entre ces terrariums comme dans une forêt de verre où la nature est tenue prisonnière. Je connais bien cet arbre. Au Maroc, c'est une plante familière chantée par les poètes et tous les amoureux. Elle a pour particularité de dégager l'odeur la plus forte du règne végétal, et comme le datura, autre arbre qui enfant me fascinait, ses fleurs ne s'ouvrent que la nuit. Je songe que la nature a des tours étranges. Les fleurs n'apparaissent qu'une fois l'ombre venue, comme si l'arbre voulait préserver sa beauté, la garder secrète, ne pas l'exposer au regard, comme je rêve moi aussi de me tenir loin du monde. Son parfum est réservé aux heures nocturnes. Est-ce une façon de dialoguer avec les insectes de la nuit? Est-ce parce que c'est dans le noir que les parfums révèlent le mieux leur puissance, leur profondeur? Hicham Berada, qui a conçu cette installation, a choisi d'inverser le cycle de la plante. Durant la journée, le terrarium reste opaque. Le jasmin est plongé dans l'obscurité, mais l'odeur embaume le musée. La nuit, au contraire, l'éclairage au sodium reproduit les conditions d'une journée d'été ensoleillée. Tout est inversé, sans dessus-dessous. L'artiste, là encore, se fait démiurge, apprenti sorcier, illusionniste. Je pense à ce que Tchekhov dit des grands écrivains. Ce sont ceux qui font surgir la neige en plein été et qui décrivent si bien les flocons que vous vous sentez saisi par le froid et que vous frissonnez.
Les œuvres du jeune artiste marocain Hicham Berada, dont parle Leila Slimani, sont exposées dans des galeries internationales et lors de biennales. Même de très petites images sur le net font comprendre à quel point ces paysages artificiels aux couleurs explosives sont d'une beauté hypnotique. L'installation olfactive de Berada a rappelé à Leila Slimani le jasmin de nuit qui poussait à l'entrée de la maison de ses parents et dont elle aspirait l'odeur quand, adolescente, elle sortait la nuit en cachette pour s'amuser dans les bars et les pubs et à l'aube, elle se glissait devant le jasmin de nuit pour rentrer chez elle. Ce jasmin, écrit-elle, est le parfum de ses mensonges. Dans son livre, Leila Slimani mentionne également des amitiés avec des écrivains. Le livre est dédié à Salman Rushdie. Qu'a-t-elle appris de lui?
Eh bien là encore, une certaine liberté. Le fait de ne pas s'enfermer dans des débats qui nous empêchent d'avancer, qui nous empêchent de créer et d'être qui on a envie d'être, et une forme de liberté dans l'affirmation de son identité, l'affirmation de soi et dans ses choix littéraires aussi, bien sûr. Avoir envie, si je le veux, d'écrire sur le Maroc, mais pouvoir aussi écrire sur la France ou sur n'importe quel autre pays du monde. Je pense que c'est ça qui m'a appris.
Salman Rushdie lui a aussi enseigné, dit Leila Slimani dans son livre, qu'on n'était pas obligé d'écrire au nom des siens. Écrire, ce n'était pas exprimer une culture, mais s'en arracher quand celle-ci se refermait en injonction. Et il faut aussi être prête à envisager la possibilité de trahir. Depuis 30 ans, l'Ouest regarde l'Est. Il tourne et retourne les Allemands de l'Est comme des escalopes dans une poêle. Zanda, tu dois aller à l'Est. Schlüppi, le meilleur copain de l'auteur, veut que Gregor Zanda fasse un voyage à Gelsenkirchen en Rhénanie, aujourd'hui une des plus pauvres communautés d'Allemagne. Le point de départ du voyage est une baraque à frites en plein Berlin-Est. Au mois d'août, Gregor Zanda sera mon invité. À bientôt pour le prochain épisode de Litteramour en compagnie de Sigrid Brinkmann.